toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
C'est une course contre la montre, course pour les papiers, course pour la survie, dans laquelle nous entraîne notre invité aujourd'hui. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
L'histoire de Souleymane est le portrait entre thriller et réalisme social d'un jeune livreur à vélo guinéen à la veille de son entretien de demande d'asile. Ce portrait, c'est vous qui le signez, Boris Lojkine. Bonjour.
Bonjour.
À Cannes, l'histoire de Souleymane a obtenu dans la section Un certain regard le prix du jury et le prix d'interprétation masculine pour votre acteur Abou Sangaré. Je le disais, c'est un film, l'histoire de Souleymane, entre réalisme social et thriller, qui rappelle un peu le Rosetta des Frères Dardenne qui a obtenu la Palme d'Or en 1999. C'est la même course pour la survie. Est-ce que vous le revendiquez, ce mot de thriller ?
Je revendique le mot de thriller, je revendique un peu moins la paternité dardennienne. Enfin, les Dardennes, j'admire beaucoup leur œuvre et leur travail et tout ça. Mais c'est pas forcément le cinéma dans sa facture dont je me sens le plus proche. En revanche, le thriller, oui, c'est un film qui est un film à 100%, un film social, on peut dire. Et en même temps, qui est écrit pas du tout comme une chronique sociale, qui est écrit avec un compte à rebours qu'on comprend très vite dès le début. C'est-à-dire que quasiment au bout de quelques minutes de film, on comprend que dans 2 jours, il y a cet entretien, que cet entretien pose plein de problèmes à notre héros.
Un entretien à l'OFPRA.
L'entretien de demande d'asile à l'OFPRA. Qu'il n'est pas prêt pour cet entretien, qu'il doit résoudre un certain nombre de problèmes avant cet entretien, d'où une série d'urgences qui se mettent en place très vite et qui le font courir pendant les 3/4 du film.
Enfin, courir, en fait, il est à vélo.
Il est à vélo. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup. J'entendais la bande-annonce de votre émission qui dit « il n'y a pas d'embouteillage dans les films ». Et je me disais, en fait, moi, dans mon film, il y a beaucoup d'embouteillage. Sauf que quand on est en vélo, on passe au milieu des voitures.
Alors, les livreurs à vélo, hein, ce sont des silhouettes bien connues des Parisiens. On les voit à fond, grillant les feux rouges, souvent la nuit. Ce qu'on devine moins, c'est que leur quotidien, souvent, c'est ça.
Bonsoir. Votre commande, s'il vous plaît.
Il s'est passé quoi avec le sac, là ?
Rien, madame. Enfin, j'ai un accident, mais c'est rien.
Excusez-moi, il est complètement froissé.
S'il vous plaît, madame, il n'y a rien qui a renversé. Vous voyez bien dedans ?
Bah oui, je vois bien que le sac est dégueulasse. Alors, regardez, il est complètement froissé.
Madame, regardez dedans, c'est sec. C'est juste...
Non, mais je ne vais pas le prendre.
S'il vous plaît, madame, on ne fait pas ça.
Oh non, monsieur.
S'il vous plaît, madame,
faites ça. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas prendre le sac.
Assistance livreur, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame. En fait, je vous appelle, la cliente a refusé la commande.
Est-ce que vous pouvez me rappeler vos noms et prénoms, s'il vous plaît, monsieur ?
C'est Bana Emmanuel. S'il vous plaît, est-ce qu'elle vous a appelé ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Parce qu'elle était énervée, madame.
Ah, ça, je sais pas. Je peux pas vous communiquer les messages des clients, monsieur. S'il y a une conséquence pour vous, vous recevrez un message sur l'application.
Ben, quelle conséquence, madame ?
Je peux pas vous dire, monsieur.
Quelles conséquences, hein. On sent que sa vie est suspendue à un film. Bien sûr, la voix de Souleymane, c'est celle d'Abou Sangaré, qui est quasiment dans chaque plan.
Dans chaque
film.
Plan, non, parce que souvent, il y a des gens en face de lui et parfois, on retourne la caméra. Mais dans chaque scène, assurément.
Il fallait un acteur exceptionnel.
Un acteur exceptionnel
qui pourtant
n'était pas acteur, qui n'avait jamais joué, mais qui s'est révélé exceptionnel, oui.
Et comment vous l'avez trouvé, du coup, Abou Sangaré, Boris Lojkine ?
Ben, on l'a trouvé en cherchant longtemps. On a cherché longtemps, on a lancé ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire un casting de non-professionnels, en sortant dans la rue. Donc on cherchait un livreur guinéen, donc on est allé à la rencontre des livreurs guinéens, on en a rencontré plein, des dizaines, des centaines. On en a fait venir dans notre petit bureau de casting pour des tests. Je pense qu'on en a auditionné à peu près 200. Et au bout de 2 mois, on a commencé à élargir en dehors de Paris et à travers des relais dans la communauté guinéenne. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 mois et demi, on a débarqué un petit matin à Amiens, petite ville charmante du nord de la France, où une association avait réuni pour nous, on avait échangé avec eux avant, 25 jeunes Guinéens. Et parmi ces 25 jeunes Guinéens, il y avait Abou Sangaré.
Mais donc, vous saviez que vous vouliez quelqu'un qui n'est pas un professionnel ?
Oui.
C'est un énorme défi.
C'est un énorme défi, mais j'aime beaucoup travailler avec les non-professionnels pour faire du cinéma. Je pense que c'est assez constitutif du cinéma que j'aime faire et que je veux faire. Même si, évidemment, dans mon dernier film, j'avais une magnifique actrice dans le rôle principal, Nina Meurice. Mais je pense que c'est ce pas de côté, le fait de travailler avec les non-professionnels, qui est au centre de tout ce que je fabrique dans mon cinéma, de toutes les décisions que je prends après. Il y a plein d'autres décisions qui font que je fais un cinéma pas tout à fait comme tout le monde. Et je pense qu'au centre de toutes ces décisions, au centre du geste de cinéma que je fais, il y a cette décision de travailler avec des non-professionnels qui changent tout, en fait. Et on se dit comme ça, des non-professionnels, c'est terrible, est-ce qu'ils vont y arriver ? Alors, ce n'est pas pour dire que tout le monde peut jouer et qu'il suffit d'arrêter n'importe qui dans la rue et qu'il va être magnifique, ça. Non, il y a des gens qui ont cette capacité à jouer, d'autres non. Et puis, ça demande du travail et ça demande une manière particulière de travailler avec les acteurs. Mais j'aime bien ça. En fait, cette manière particulière de travailler avec les acteurs, c'est que je vais être très à l'écoute de ce qu'ils sont. Ça veut dire que, évidemment, si j'imprime les pages de mon scénario et que je leur dis « apprenez ça par cœur, revenez demain et on tourne », ça ne va pas marcher. Mais même avec des acteurs professionnels, alors je ne suis pas sûr que ça marcherait très bien. Mais en tout cas, avec des non-professionnels, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, c'est un travail différent. C'est un travail où, même s'il y a un scénario qui est écrit avant que je rencontre les acteurs, eh bien, quand je les rencontre, quand on commence à avoir un petit peu fixé le cast du film, on se lance dans un grand processus de répétition des scènes où, d'un côté, eux s'améliorent pour devenir les acteurs que j'ai besoin qu'ils soient pour le film. Mais d'un autre côté, moi, je vais aussi à leur rencontre. Je comprends comment les scènes fonctionnent avec eux, comment les scènes vont rentrer dans leur bouche, comment ça va être juste pour eux. Et à partir du moment où c'est juste pour eux, ils vont pouvoir bien jouer.
Et quand vous avez rencontré Abou Sangaré, qu'est-ce que vous avez vu chez lui qui vous a convaincu que c'était Souleymane ?
C'est compliqué de mettre des mots dessus. Il y a une évidence à l'image.
Il y a un magnétisme.
Mais c'est compliqué. Il y a un magnétisme. En fait, le moment où j'ai vraiment pris la décision, parce que on l'a vu trois fois. Je l'ai vu une première fois, au milieu de ces 25 jeunes, on l'a vu 5 minutes. Ensuite, il est reparti parce qu'il est mécanicien. Donc, un monsieur lui avait donné une voiture à réparer. Il est parti réparer très vite. Il est parti réparer la voiture. L'après-midi, avec ma directrice de casting, Aline Dalbis, extraordinaire, on se dit... On aimerait en revoir 4 sur les 25. On rappelle, il y en a 3 qui viennent et le 4e nous dit « Ah non, je suis désolé, j'ai cette voiture à réparer, je ne veux pas faire attendre le monsieur, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir venir. » Donc là, on regarde l'heure, on se dit « Ah, il y a encore un dernier train. » Donc voilà, moi je commençais à dire « La journée est longue quand même, j'hésite même à repartir à Paris sans le revoir. » Et puis finalement, il arrive essoufflé à la gare d'Amiens. On fait des nouvelles improvisations, là on prend un peu plus de temps, on joue une petite scène ensemble, on se dit « Il est pas mal. » Mais le moment vraiment où j'ai décidé, c'est une semaine plus tard, on le fait venir à Paris, on joue une scène avec un autre jeune Guinéen qui d'ailleurs est dans le film, c'est Younoussa Diallo, qui est formidable dans le rôle du petit Khalil qui court toujours après le vélo de Sangaré, qui veut faire de la livraison lui aussi. Et je leur fais improviser une scène, et dans cette scène, ce qui m'a attrapé, moi, ce qui m'a accroché, ce qui a accroché la caméra, à vrai dire, c'est un moment de silence. Et on se dit toujours, un acteur, c'est quelqu'un qui sait parler, qui parle bien, qui a la tchatche. Et en fait, non, moi, c'est un moment de silence où tout d'un coup, dans ce silence, il y avait quelque chose de cinématographique. C'est cette chose que j'ai du mal à vous décrire, que je ne saurais pas dire c'est quoi. Mais il y a une sorte d'évidence à l'image. On se dit, la caméra l'aime déjà. Même si c'est une petite caméra dans un lieu moche, mal éclairé, il y a déjà une puissance de cinéma.
Alors, on en reparlera de comment Abou Sangaré s'est préparé à jouer le rôle de Souleymane. On en reparlera après ce titre de la playlist de RFI qui nous entraîne au Ghana avec K.O.G. Ça s'appelle « Ne prenez pas mon âme, don't take my soul ». I done done, trying to make it on my own. Live my very best and I want my throne, I know. Reaping all the seeds I sow. Counting on my blessing that the Lord control my soul. Even though the lights go low. Even though I never been lost, never felt at home. Oh Lord, carry this load. Oh Lord, tell them leave me alone, alone.
been talking, your soul they want it. They want to take control, it no go happen. You no go take my life, my wallet. I go de push, I go do something. You no go take my life, my wallet. I go de push, I go do something.
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invité Boris Lojkin. L'histoire de Souleymane, c'est donc celle d'un jeune Guinéen sans papier. Il sillonne Paris à vélo. Alors, pas la ville lumière, pas le Paris en majesté des JO, mais un Paris souvent nocturne. Avec
mais justement, dans la nuit, il y a beaucoup de lumière. Hein, et moi, j'étais très attentif à toutes ces lumières, les néons de la ville et tout ça. Ça me plaisait beaucoup. En plus, sous la pluie, c'est encore plus beau. La pluie, les lumières de la ville se reflètent dans le sol mouillé. C'est magnifique.
Et du coup, c'était presque un plus que votre acteur ne soit pas parisien. C'est-à-dire qu'il a découvert Paris pour la première fois. T'es peut-être pas quelqu'un qui fait du vélo tout le temps non plus.
Alors le vélo, il savait quand même faire du vélo, Dieu merci.
Donc Abou Sangaré, j'ai pu le rencontrer dans Paris, pour être précise, dans les locaux de votre distributeur Pyramide. Et donc il m'a raconté comment il s'est préparé pour ce rôle.
Ça dit, je suis aussi que le scénario rencontre presque une partie de ma vie, voire même rencontre la vie des sans-papiers ici en France, ce qui m'a beaucoup... Ça dit ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans le film, c'est de parler des gens qui sont cassés, qui rendent service à tout le monde, mais ne savant pas qui sont ces gens, ne connaissant pas leur parcours, ne savant même pas qu'est-ce qu'ils mangent le soir, où est-ce qu'ils dorment. Pour moi, ce film est fait pour juste montrer à ces gens-là comment sont les livrets, est-ce que c'est des voyous, est-ce que c'est des travailleurs. Parce que la plupart des gens pensent que les livrets, c'est des voyous, quoi. C'est parce que en les voyant habillés comme ça, voilà. Ces films leur proposent justement de voir comment sont la vie de ces gens.
Vous n'avez jamais été livreur. Donc, Abou, comment vous vous êtes mis dans la peau du personnage?
J'avais jamais fait deux jours à Paris. Ça veut dire que quand on m'a sélectionné comme rôle principal, la première des choses qu'on a eu à faire, c'était de passer le stage de la livraison. Enfin, on va dire comme ça, j'ai fait 2 semaines de stage de la livraison juste pour apprendre vraiment à des points techniques de la livraison, savoir comment ça marche les EPS, savoir comment ça fonctionne l'application de Uber et aussi savoir comment communiquer avec les gens, savoir comment rouler le vélo sur Paris. Moi, je n'avais jamais fait tout ça. Ensuite, il y a eu 2 mois de répétition à laquelle on a comparé chacune des acteurs entre eux. Ça veut dire que bien avant le tournage, on était tous prêts. Chaque acteur était prêt. Tout le monde connaissait maintenant, en tout cas moi personnellement, j'étais déjà prêt, je connaissais mon rôle. Et au tournage, pour moi, c'était comme si ça allait tout seul, quoi.
Comme si ça allait tout seul. Peut-être que vous ne reprendriez pas ça à votre compte.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que le plus difficile pour lui, ça a été ces 2 semaines de stage de livraison avec Mamadou, qui n'était pas un maître de stage facile. Le temps des répétitions aussi, je pense que c'était un temps assez anxiogène pour lui, parce qu'il se demandait quand même un peu à quelle sauce il allait être mangé, comment ça allait être le tournage. Il voyait s'approcher, il comprenait progressivement que tout allait reposer sur lui, qu'on avait beaucoup d'attentes, et comme il n'avait jamais joué, bah, il se demandait s'il allait répondre à nos attentes. Et il était très stressé, au point d'être parfois quasiment malade. Et j'avoue que j'étais inquiet aussi de voir s'il allait résister à ce tournage. Et en fait, dès que le tournage a commencé, pour nous, on a senti que c'était nickel. Il n'y a pas de miracle. On a senti que la caméra l'aime. Elle l'aime dans chaque plan. Il est toujours bien. Donc, il n'y avait pas de problème. Et pour lui aussi, dès qu'on a commencé le tournage, ça allait en fait.
Boris Lojkine, vous le disiez avant de trouver Abou Sangaré, de toute façon, vous cherchiez un jeune homme guinéen. Alors, pourquoi guinéen ?
Excellente question. Oui, non, mais c'est vrai, pourquoi un guinéen ? Ça peut sembler étrange. Pourquoi un guinéen plutôt qu'une autre communauté africaine, par exemple, qui sont présents à Paris ?
Et puis vous, Boris Lojkine, vous avez longtemps travaillé en Centrafrique, puisque vous aviez mené les ateliers Valran. Pourquoi pas, par exemple, un jeune Centrafricain ou un jeune Ivoirien ?
Mais moi, je crois à la vérité du terrain. Et jamais sur le terrain, je n'ai rencontré un livreur centrafricain. Vous savez, mon amour des centrafricains, mais voilà, j'en ai jamais croisé sur le terrain. Il y en a sûrement quelques-uns. Hein. Mais dans leur grande majorité, les livreurs africains appartiennent à deux communautés. Ils sont ivoiriens et guinéens. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Les Noirs en France, ce sont les Maliens et les Sénégalais. C'est eux qui sont là le plus longtemps, le plus nombreux. Et ça ne m'étonne pas que ce ne soit pas eux qu'on trouve le plus dans la livraison. Parce qu'en fait, dans la livraison, on va trouver les derniers arrivés, c'est-à-dire les plus fragiles. C'est eux qui font la livraison parce que c'est un métier terrible.
Un métier terrible, effectivement, très 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 mal payé, où on est très très mal considéré. On a entendu le son en début d'émission, un extrait du film où une personne voilà, qui attend confortablement dans son appartement qu'on vient de lui livrer son repas, le rejette pour un sac froissé.
Oui, mais cette personne, c'est nous. C'est pas pour dire « elle, c'est la méchante ». En plus, je vais vous faire une confidence, la personne qui joue le rôle, c'est ma fille. Il y a un autre mauvais rôle dans le film, c'est le rôle du restaurateur très désagréable que je joue moi-même. Donc vous voyez, les mauvais rôles, on les fait en famille. J'aime pas distribuer des mauvais rôles aux autres gens, donc voilà, on fait ça en famille très bien. Mais c'est vrai, c'est ça la livraison en fait, c'est la mise en communication à travers l'application de deux populations qui ne se croisent jamais vraiment. Les gens qui commandent et ses livreurs. Ça raconte vraiment quelque chose de notre monde ou de la société dans laquelle on est, ça, et de cette économie numérique qui se développe de plus en plus, du fait que, comme ça, des populations suivent des trajectoires parallèles sans jamais se croiser. Et je crois que c'est exactement ça qui est à la base du projet du film. Le film, ça vise quoi ? Ça vise à proposer au spectateur une expérience, à lui dire, les livreurs, vous savez qu'ils existent, vous les connaissez, vous les croisez, mais comme des silhouettes, sans jamais les rencontrer vraiment. Moi, je vous propose de passer une heure et demie avec l'un d'eux, accroché vraiment de manière très physique à Souleymane, à son vélo, et voyons si cette expérience de passer une heure et demie avec Souleymane, en regardant Paris, en regardant le monde avec les yeux de Souleymane, voyons si ça change quelque chose à votre vision du monde.
Oh, ça dit quoi ? Oh, Souleymane de Paris, ça comment ? Ouais, ça va, non ?
Ça dit quoi ? Souleymane, tu veux quoi ? Moi, j'ai acheté.
Acheté, c'est bien, ça. Tu veux pas aider ton frère un peu ? Parce que Guinée, là-même, c'est pas la peine.
Dans les 10 dernières années, la Guinée a gagné quelle équipe ?
Mais on a en 117.
On parle des 10 dernières années.
Le problème, c'est que moi je ne peux pas trop discuter là.
Oui, mais juste le confirme après, tu peux aller.
Ouais, mais il le sait, déjà la Guinée a battu Côte d'Ivoire combien de fois.
Nous, on est éléphant.
Quel grand éléphant ? Signification, il faut demander aux Guinéens. Ça veut dire écureuil.
Alors, petit moment de pause dans votre film, Boris Lojkine. Il y en a peu, mais il y en a.
Il y en a peu, et ils sont courts.
Là, c'est la pause football. Et on entend bien la différence presque. J'allais dire de hiérarchie entre les différentes nationalités.
Voilà, mais ça m'amusait beaucoup. J'adore faire ce genre de petites scènes et c'est assez caractéristique de la manière dont je travaille aussi. Donc là, petite scène où les Ivoiriens et les Guinéens se plaisantent entre eux. Il y a aussi un Malien qui se glisse entre les deux. J'aime beaucoup ça parce que ça change, si vous voulez, d'un point de vue de blanc pour lequel les Africains, c'est un peu tous pareils. On les met tous dans un grand sac et on ne fait pas la différence. Et dès qu'on commence à connaître des Africains, on se rend compte qu'il y a différentes nationalités et que ces différentes nationalités se regardent de différentes manières. Et c'est assez plaisant, voilà. Donc pour les Guinéens, les Ivoiriens, c'est toujours un peu les blablateurs, ceux qui parlent trop, les urbains. Et puis pour les Ivoiriens, les Guinéens, c'est un peu... ils sont plus traditionnels, ils sont un peu radins, ils sont un peu blédards. Et voilà, c'est une sorte de moquerie, un peu de plaisanterie, comme il y a les parentés à plaisanterie en Afrique, de cette manière très, très joviale et cordiale de se parler entre toutes ces communautés qui forcément se retrouvent dans le Paris de l'immigration.
Vous disiez, Boris Lochkine, que vous aviez demandé à Abou Sangaré de passer 2 semaines en stage de livraison, mais vous, j'imagine que vous aussi vous êtes immergé dans le milieu. Avant même de commencer à écrire le film, comment vous avez capté toute la matière documentaire?
Alors, j'ai pas fait de stage de livraison, moi, j'avoue. J'ai rencontré beaucoup de livreurs, en fait, et j'ai même commencé le travail comme ça, avant même d'écrire le scénario, avant même de savoir qu'est-ce que le scénario allait raconter. Je savais juste que je voulais faire un film sur un livreur à vélo, et donc je suis parti en rencontrer. Donc, je suis allé dans la rue et j'ai essayé d'arrêter les livreurs. Il y en a plein qui m'ont dit non, j'ai pas le temps, ou bien pas de journaliste, ou qui se sont enfuis parce qu'ils ont pensé que j'étais peut-être un policier.
Il y a beaucoup de livreurs sans papier.
La majorité à Paris, la majorité. Mais quand même beaucoup ont accepté d'aller prendre un café avec moi. Et à ce moment-là, donc je les ai longuement interviewés. Enfin, je les ai longuement parlé avec eux. J'ai pris plein de notes et ils m'ont raconté une foule d'histoires et de petits détails. C'est tous ces petits détails qu'ensuite on retrouve dans le scénario qui font le sel un peu de ce scénario et qui font que on peut dans ce scénario avoir un vrai réalisme en fait de la représentation de ce métier. Mais c'est vrai que ma grande découverte, enfin c'est pas une découverte extraordinaire, mais moi ce qui m'a beaucoup frappé en rencontrant ces livreurs, c'est le fait que la majorité étant sans papier, pour travailler, ils doivent travailler avec le compte d'une autre personne. Et donc il y a un propriétaire de compte ou titulaire de compte auquel ils louent le compte. Et bien sûr, contre rémunération. Donc, il lui verse soit quelque chose chaque semaine, soit un pourcentage, généralement 30% de ce qu'il gagne. Et ça m'a passionné à la fois, je dirais, comme vérité sociologique, c'est-à-dire comprendre que ces livreurs sont doublement exploités. Ils sont exploités par l'application et puis ils sont exploités en plus par le titulaire de compte. Ça, c'est la condition de sans-papier. Quand on est sans-papier, on est à la merci de tout le monde, en fait. Et on va payer plus que tout le monde pour travailler, pour se loger, pour avoir des papiers. À tous les étages, on est exploité.
S'il te plaît, Manuel, il y a moyen que tu me payes aujourd'hui? S'il te plaît.
Déjà, combien t'as fait là?
Là, je suis à 253.
253? C'est minable. Non, il faut bosser,
oui,
Pierrot,
mais
il faut bosser.
Moi, je bosse. T'as pas à me dire...
Il faut charbonner, Pierrot. Je t'ai donné le compte pour que tu travailles.
Ça sonne pas.
Il faut travailler, Pierrot. On n'est pas venu en Europe pour jouer.
Oui, mais moi, je joue pas, Emmanuel.
250, ouais, c'est rien, ça.
Ben non, je joue pas, Manuel. Tu peux me payer aujourd'hui?
Mais non, tu sais très bien que notre deal, c'est mardi.
Oui, mais moi, j'ai besoin des sous. Qu'aujourd'hui, en fait, s'il y a moyen.
Ça dépend de quand l'agent vient.
S'il te plaît.
Une fois l'agent, il vient.
Mais c'est possible, tu vas recevoir des sous demain avant 12h, on est d'accord? S'il te plaît.
Demain, je te paye à 13h. 13h, on se retrouve à la gare du Nord.
Ok, 13h, c'est bon.
C'est carré, frérot.
Cet Emmanuel, c'est le titulaire de compte.
Voilà, c'est le propriétaire du compte. Donc, c'est quelqu'un qui est un Camerounais, mais qui est en France depuis plus longtemps, qui a des papiers. Et ayant des papiers, il peut ouvrir un compte et qu'il va sous-louer à quelqu'un d'autre pendant que lui fait un autre travail. On le voit qui travaille dans une boutique de cosmétiques à Château d'Eau.
Et donc, c'est la chaîne de l'exploitation, en fait.
C'est la chaîne de l'exploitation qui est vraiment typique des gens qui n'ont pas de papier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas de papier, ils sont relégués dans une marge d'illégalité où ils sont forcément la proie de tous les gens qui vont profiter d'eux.
Alors, dans cette scène, on entend une petite musique de fond.
Oui.
C'est la musique de la boutique dans laquelle travaille Emmanuel. Il n'y a pas de musique sinon dans votre film?
Non, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. C'était un choix que j'ai fait au tout début du projet. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire ce film sans musique. Voilà, pour moi, c'est d'abord l'affirmation d'un réalisme radical. C'est un film sans chichi, sans artifice, tout droit, un peu brut comme ça. Et puis, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à partir du moment où on enlève la musique, en fait, on s'ouvre la possibilité de faire un travail sur le son très riche, en fait. C'est-à-dire que la vraie musique du film, c'est la musique de la ville, c'est l'ambiance de la ville, c'est on pourrait dire, concerto pour sirène et klaxon. Et que comme il n'y a pas de musique, c'est cette matière sonore du film qu'on va traiter comme de la musique. C'est-à-dire que la matière sonore, là, n'est pas là que pour illustrer et nous dire là on est dans la rue, là on est dans un carrefour, là on est dans une station de métro, mais elle est là pour donner des sensations vraiment aux spectateurs. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a travaillé au montage son, au mixage, pour pousser plus loin l'effet que cette matière sonore va faire sur le spectateur, et ça participe à son anxiété, à l'anxiété du spectateur qui a peur pour Souleymane, à l'attente, à l'urgence. Voilà, c'est-à-dire que l'ambiance sonore du film est la véritable partition musicale qui doit donner au spectateur toutes les sensations que je veux qu'il ait.
Dès le début du film, on est dans cette ville où tout, effectivement, vous avez monté les potards, parce qu'on tremble avec, dès qu'il enfourche son vélo, il se faufile entre les voitures, il passe au rouge alors qu'il pleut en plus. On tremble, on pense qu'il va avoir un accident.
Bah, vous tremblez et c'est très bien, c'est exactement ce que je veux. D'abord vous tremblez et puis ensuite vous pleurez.
Avec le son, on peut sculpter aussi l'espace. Comment vous avez fait concrètement ? C'est-à-dire, vous avez bloqué des rues, vous êtes glissé dans la circulation réelle de Paris. Comment vous avez pu le suivre avec les caméras ?
Maintenant, on n'a rien bloqué, parce que si vous bloquez les rues, il n'y a plus de vie. Et ensuite, soit vous avez 200 millions de dollars de budget, auquel cas vous pouvez reconstituer un petit peu de cette vie. Mais si vous n'avez pas Tom Cruise sur le plateau et si vous n'avez pas les 200 millions de dollars, vous allez bien embêter. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait faire un tournage avec un dispositif semi-documentaire. C'est-à-dire, le film n'est pas du tout un documentaire. Je veux dire, c'est un film avec un scénario où tous les gens ils sont embauchés pour venir jouer un rôle et où on tourne des scènes qui ont été préparées. Donc, on n'est pas du tout dans un documentaire. On est vraiment dans une démarche de fiction. Mais malgré tout, le film va donner un sentiment de documentaire au spectateur parce qu'on filme très inséré dans la ville. Donc, on bloque rien. On bloque surtout pas la circulation. Donc, on filme au milieu du bordel. Pardon, mais il n'y a pas de meilleur mot. Au milieu du bordel, des voitures dans tous les sens. On filme... au milieu des carrefours les plus bruyants et les pires de Paris, Barbès, Jaurès, Grand Boulevard, là où il y a le plus de monde, systématiquement, je mets les scènes là où il y a le plus de monde, le plus de gens qui vont passer devant, derrière la caméra. Alors évidemment, ça rend le tournage un peu sportif, on va dire.
Alors on comprend que vous êtes à vélo, en fait, avec lui.
Et quand on filme le vélo, ben, il n'y a pas d'autre solution que d'être nous-mêmes à vélo, en fait. Parce qu'on ne peut pas filmer depuis une voiture. Si vous êtes dans une voiture, ben, vous êtes arrêté par les embouteillages.
Vous ne pouvez pas vous faufiler à sa suite.
Vous pouvez pas vous faufiler. Si vous êtes sur une moto, vous pourriez vous faufiler à la rigueur, mais bon, prendre les feux rouges et prendre les pistes cyclables, c'est pas bien. Donc la seule solution pour être comme lui, c'est d'être sur des vélos nous-mêmes. Alors donc on a monté tout un dispositif qui était assez rigolo d'ailleurs, même si après c'était beaucoup de travail, mais enfin c'est quand même assez rigolo, avec un grand vélo cargo, vous voyez les vélos avec une benne devant et le chef-op au fond de la benne.
C'est à bout de souffle de Godard que vous avez reproduit son système.
Je sais pas.
Pardon pour la référence.
Non, je sais pas. Mais en tout cas, oui, on a beaucoup couru. Voilà. Donc, on était avec des vélos tout autour de lui. Un vélo pour la caméra, un vélo pour le son, que généralement je conduisais moi-même avec l'ingénieur du son derrière moi. Un autre vélo pour le premier assistant. On le suit parfois, on le précède. Et on essaye de s'insérer dans cette cacophonie de la ville. Et c'est comme ça qu'on peut avoir ce rendu où la ville est très spectaculaire. C'est-à-dire où on en a plein les yeux et plein les oreilles.
Comment vous avez fait pour le son ? Parce que j'imagine qu'on ne met pas des micros HF à tout le monde.
Alors si, on met plein de micros HF à tout le monde et on en met aussi au vélo. Donc par exemple, quand on tourne à vélo, quand on tourne à vélo, le vélo de Souleymane, le vélo de jeu, donc le vélo sur lequel est monté Abou Sangaré, est truffé de micros partout pour avoir vraiment quelque chose qui restitue l'espace sonore. Et il y a même deux micros sur la tête du chef-op. Parce que comme c'est lui qui est le plus proche avec la caméra de Sangaré, du coup, c'est bien d'avoir, avec deux micros HF sur la tête, on reconstitue une stéréo comme ça.
Est-ce que, du coup, votre acteur, votre Souleymane, vous lui disiez exactement quel était son itinéraire, ou est-ce qu'il pouvait lui-même improviser, comme tout un chacun sur son vélo, je peux me faufiler, c'est bon là.
Il y avait des instructions, mais qui souvent se perdaient en chemin. C'était très difficile pour moi de rester en communication permanente avec lui. À certains moments, on arrivait à lui mettre une sorte de boucle WhatsApp dans les écouteurs qu'il a dans les oreilles, entre lui, le chef-op, et moi, chacun sur un vélo différent. Franchement, c'était pas simple, et donc il y a beaucoup d'improvisation, et c'est très bien comme ça.
Dans votre film, Boris Lochkin, il y a en fait deux comptes à rebours, celui des clients et puis aussi celui de l'entretien de demande d'asile, car bien sûr, il faut que Souleymane se prépare. Et il y a un homme qui le coach pour l'entretien, car il y a des trajectoires que l'OFPRA peut entendre et d'autres moins. Enfin, en l'occurrence, Souleymane va tenter de se faire passer pour un réfugié politique.
D'accord.
Né, bari. Beynu wo comme secrétaire sécurité mi
kon wo. Non, non, mais c'est simple quand on secrétaire sécurité, quand on occupe fi cadre ko ngol événement ni. Si beynu mo ko secrétaire chargé de la communication, ko non problème, donc au secrétaire chargé de la sécurité. Ko non sécurise ta événement ni la ni ko non rôle ma.
Et du mon kadi minani kadi wo be landay woni mbébé wo kon mi wada ta du mon réunion.
Non, mi mi ci poto prochain arrêt. Je suis pour le prochain.
Oui, mais.
Réunion, le président de mon Abdoulaye Bari. On a mis un membre du comité de Badjid.
Non.
J'en ai un téléphone, non. Le président de la fédération de Ratoma est M. Alassane Diallo.
Alors là, on est dans le RER, Boris Lochkine. Dialogue animé entre Souleymane et Bari. Donc Bari, je le disais, hein, c'est celui qui le coach. Hein.
Oui, j'appelle lui son coach d'asile. Hein. Effectivement, Bari, c'est donc un compatriote guinéen comme lui qui est arrivé plus tôt, qui lui a obtenu l'asile précédemment et qui aide ses compatriotes, mais c'est une aide qui se rémunère aussi, comme tout en ce bas monde. Et donc, Souleymane compte sur lui pour le préparer à l'OFPRA en pensant que c'est la seule stratégie possible pour lui pour obtenir des papiers.
Et vous filmez dans le RER, autre défi ?
Ouais, le RER,
que j'imagine c'était... que là non plus, on loue pas un RER spécialement pour la scène.
Le RER, c'était vraiment compliqué. C'est rare, en fait, de faire de ce genre de grande scène de dialogue. Là, c'est une longue scène de dialogue. Ça devait être 6 ou 7 pages de scénario. C'est rare de faire ce genre de grande scène de dialogue dans un lieu aussi terrible sonorement que le RER. Un RER, c'est vraiment c'est les freins qui grincent, c'est les roues en métal sur les rails. Enfin, ça fait un vacarme abominable. Alors, on est sauvé pour le son par les HF dans les bonnets. Comme c'est l'hiver, tout le monde met des bonnets. Et le micro HF dans le bonnet, ça marche très très bien. Ça marche encore mieux que les HF dans la chemise. Et c'est ça qui nous sauve. Mais c'est sûr que c'est compliqué. C'était un tournage où le tournage, la nuit du RER, on partait de Marne-la-Vallée. On devait se mettre exactement dans la même position à chaque fois, dans un wagon exactement similaire du RER. On tournait à peu près 10 minutes. En faisant, je ne me souviens plus, 4 ou 5 stations, on redescendait, on partait dans l'autre sens, on retournait au terminus à Marne-la-Vallée et on refaisait la même chose 10 minutes par 10 minutes comme ça. Ça, c'est, je pense que c'était le pour moi, c'était sans doute le tournage le plus stressant, le plus compliqué, d'être obligé comme ça de morceler notre temps de travail pour être toujours entre les mêmes stations, avec le même paysage dehors, dans les mêmes positions dans le RER, arriver à faire quand même, à diriger des comédiens dans une scène comme ça. Oui, là, c'était vraiment c'était un challenge un peu monstrueux.
Oui, c'était beaucoup de défis pour Abou Sangaré.
Mais pour moi aussi, il faut plaindre aussi le pauvre réalisateur parfois. Sangaré, il connaissait parfaitement son texte à ce moment-là. Au début, toutes ces scènes d'asile, pour lui, c'était très difficile parce que la politique guinéenne, il n'y connaissait rien du tout.
Bah, comme son personnage, du coup.
Mais encore pire, je dirais. C'est-à-dire que lui, Sangaré, il a quitté la Guinée très jeune, il a quitté la Guinée à 15 ans et demi, quelque chose comme ça. Il vivait dans une toute petite ville de province. Donc la politique à Conakry, il n'y connaissait rien du tout. Apprendre ça, pour lui, c'était un pinsomme terrible.
C'est quoi la langue entre Bari et Souleymane ?
Alors, entre Bari et Souleymane, c'est du peul. Mais quand Souleymane appelle sa maman ou sa fiancée, il parle malinké. Il y a aussi une scène où il parle avec deux Ivoiriens, Dioula. Le Dioula étant une langue apparentée au malinké, de la même famille. Donc, ils se comprennent sans parler. Enfin, les gens qui parlent Dioula comprennent les gens qui parlent malinké et vice-versa. Voilà. On a pas mal de langues africaines comme ça dans le film. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est important pour moi que les Africains parlent leur langue et qu'on ne les fasse pas toujours parler en français.
Boris Lochkine, ce film, je le disais, c'était aussi beaucoup de défis pour Abou Sangaré, votre acteur, et entre autres la séquence qui se passe dans les bureaux de l'OFPRA, donc l'Office français pour la protection des réfugiés apatrides, donc avec ce qu'on appelle une officière de protection, jouée par Nina Meurice, donc Nina Meurice qui était l'actrice principale de votre précédent film Camille. Et donc pour Souleymane, c'est le grand oral.
Pour Souleymane, c'est le grand oral.
Et encore, je dis ça, mais c'est plus qu'un examen.
C'est un peu comme un examen, mais en pire, effectivement. Vie. Parce qu'il joue vraiment sa vie, sa survie en France, son avenir. Tant qu'il n'a pas de papier, comme Sangaré lui-même, il est comme en prison. Il ne peut rien projeter, il ne peut pas faire de projet, il ne peut pas imaginer de faire un métier. Il est vraiment dans une non-vie comme ça. Et le jour où il a des papiers, ben, tout change pour lui, tout. Donc c'est énorme, hein. Plusieurs personnes m'en ont parlé en me disant ça, c'est le jour qui peut changer toute ta vie. Alors, c'est un énorme challenge pour Souleymane, mais c'était aussi un énorme challenge pour Abou Sangaré, qui joue le rôle. Pour lui, autant il était à l'aise dans tout le tournage, autant cette séquence qu'on a tournée à la toute fin du tournage, cette séquence, c'était quelque chose qu'il redoutait plus que tout et qu'il attendait un petit peu avec anxiété. Et moi aussi, à vrai dire. Parce que c'est une scène monstre. D'abord, c'est une scène monstre par sa longueur.
20 pages de scénario.
20 pages de scénario. Et il faut se dire que dans le premier montage de la scène faisait 35 minutes. Et c'était bien, hein, mais on l'a raccourci ensuite, on l'a coupé de moitié. Mais voilà, c'est très très long. C'est-à-dire que même pour un acteur extrêmement professionnel, expérimenté, ça serait un challenge énorme. Mais pour quelqu'un dont ce n'est le métier que depuis quelques semaines et qui n'est pas forcément très à l'aise avec la parole et la parole en français, c'était un challenge monstrueux. Donc on a tourné cette scène sur plusieurs jours. Et à vrai dire, on l'a tourné de manière différente. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les échanges entre Nina et Nina Meurice, pardon, qui joue le rôle de l'officière de protection, et Souleymane, c'était très écrit et ils ont vraiment suivi de très près le script avec les échanges d'arguments entre l'un et l'autre, lui racontant son histoire, elle essayant de le coincer, lui se sortant d'un piège pour avancer, et puis elle contre-attaquant, etc. Il y avait vraiment tout un script extrêmement précis. Mais pour la scène, j'avais besoin d'autre chose. Il y avait besoin qu'à un moment donné surgisse une émotion particulière. Et cette émotion-là, c'est pas juste apprendre un texte, c'est pas juste faire ce travail technique qui est de restituer un texte ou un ordre d'argument tel qu'on l'a compris. C'est trouver en soi les ressources pour arriver à sortir une émotion qui soit une émotion vrai, mais en même temps faite pour le film. Et je dois dire que quand Sangaré l'a fait, et avant qu'il le fasse, on l'avait répété cette scène, mais on l'avait répété, mais ça n'avait jamais été bien. Et avant qu'il le fasse, je ne savais pas comment ça allait sortir. Personne ne savait. Ni moi, ni Nina Meurice qui avait répété avec nous, ni lui-même. Et quand il l'a fait, je peux vous assurer qu'on avait tous la chair de poule. Il y avait vraiment là, tout d'un coup, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose sur le plateau, quelque chose qui est un moment de grâce, un moment d'intensité totale, où c'est totalement du cinéma. Et en même temps, et c'est ça que j'aime moi, c'est autre chose que du cinéma aussi. C'est quelque chose qui transcende tout ce qu'on peut fabriquer, qui est de l'ordre de la vérité. Et là, j'étais tellement bouleversé. Bouleversé parce qu'il était super dans son jeu, mais aussi bouleversé de me dire que Abou Sangaré, donc après ces quelques mois qu'on est passé ensemble, était arrivé à ce niveau-là, qu'il avait franchi un tel niveau pour en arriver à ce niveau de jeu d'acteur.
Et puis surtout, enfin, vous disiez tout à l'heure qu'il était stressé. Alors, on imagine un scénario de 20 pages en français, un face-à-face au couteau. Mais il y avait une résonance émotionnelle aussi très forte chez lui, puisqu'il a, au moment du tournage, il avait déjà fait deux demandes de régularisation qui avaient été refusées. Donc, ça le renvoyait, j'imagine, à des souvenirs très, très précis. Même
bien
si
sûr,
concrètement,
bien sûr.
Il ne s'est jamais retrouvé face à l'OFPRA.
Non, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre Sangaré et Souleymane. Hein, le personnage demande l'asile. Sangaré, lui, il est arrivé en France mineur. Donc, il a demandé à être reconnu comme mineur. Il n'a donc jamais demandé l'asile. Donc, c'est des démarches différentes. Mais c'est vrai qu'il sait ce que ça veut dire que de se tenir face à quelqu'un de l'administration et de défendre son cas devant cette personne et que votre vie dépend de la décision de cette personne.
Cette semaine, il a fait une troisième demande de régularisation, c'est ça ?
Oui, alors moi, quand je l'ai connu, en fait, il était en train de déposer une demande de régularisation, donc en mai 2023. Après quoi, on a, pendant tout ce temps d'attente qui est très long, c'est des mois d'attente, on a tourné le film. Il est retourné chez lui à Amiens en décembre et moi, je suis allé en montage de mon film. Et en mars, pendant que j'étais en
juste
montage...
Juste avant le Festival de Cannes, donc.
Oui, et en mars, pendant que je montais le film, pardon, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait reçu la réponse de la préfecture et malheureusement, cette réponse était négative. Donc moi, évidemment, la première chose que j'ai pensé quand il m'a dit ça, j'ai pensé, j'espère qu'on va à Cannes. Parce que Cannes est la meilleure chose pour l'aider, en fait. On est allé à Cannes, le film a été reçu de manière triomphale. Il a reçu un prix d'interprétation masculine pour son travail, une reconnaissance extraordinaire.
Il y a eu des portraits de lui partout dans la presse.
Il y a eu des portraits de lui dans toute la presse.
Y compris la Une de Libération.
Et donc, à partir de là, je me suis dit, on va se battre pour que l'administration entende qu'on a un cas particulier qu'il faut traiter. Et effectivement, après des mois et des mois à frapper à toutes les portes, à la mi-août, la préfecture de la Somme, dont il dépend, donc, lui a envoyé un mail en lui disant qu'ils étaient prêts à reconsidérer son dossier et à lui proposer de déposer une nouvelle demande, chose qu'il a faite cette semaine.
C'est à la fois magnifique et à la fois terrible de se dire que jusqu'à quoi faut-il arriver pour avoir cette chance, enfin, entre guillemets. Abou Sangaré, il a eu un prix d'interprétation. On sait qu'il y a d'autres cas dans le passé de jeunes hommes qui ont accompli des actes de courage, de sauver un enfant qui allait tomber d'un balcon. Voilà. Il faut vraiment avoir presque des cas d'héroïsme pour pouvoir, dans ce pays, ne serait-ce qu'avoir des papiers pour pouvoir travailler.
Effectivement. Mais là, aujourd'hui, devant vous, j'ai pas envie d'en faire un sujet politique. J'ai juste envie qu'il ait ses papiers, en fait.
Et vous êtes optimiste ?
Je suis raisonnablement optimiste, oui. La préfecture a rouvert la porte. La préfecture lui a dit qu'ils avaient bien compris que sa situation aujourd'hui, au vu du film, était un petit peu différente de la situation au moment où il a déposé le dossier avant. Donc j'espère vraiment du fond du cœur qu'ils vont examiner sa demande avec bienveillance.
On aura la réponse dans quelques mois.
Aucune idée. J'espère que ça va aller vite.
On vous tiendra au courant dans cette émission. Merci beaucoup, Boris Lochkine.
Merci, Elisabeth. Merci, Sophie.
Et votre film, votre merveilleux film, L'histoire de Souleymane, est sorti en salle ce mercredi. On ne peut que recommander aux auditeurs d'aller le voir. On va écouter tout à l'heure le journal du cinéma de Sophie Torlotin, mais avant, on écoute Blasé. Le titre s'appelle Eyes Comfortable et c'est le choix de notre réalisatrice, Apolline Verlon. Sometimes this ice is comfortable when you're sitting down a long time. C'est le moment du journal du cinéma. Sophie, on part à Accra, au Ghana, où se tient la deuxième édition du sommet du cinéma africain.
Et rien de tel qu'une star hollywoodienne pour attirer les projecteurs sur le 7e art du continent. C'est Idriss Elba qui est l'invité vedette de ce sommet. L'acteur né d'une mère ghanéenne et qui possède deux passeports, britannique et sierra-léonais, veut promouvoir le cinéma africain qu'il entend développer, enfin en tout cas aider à développer sur le continent et la scène internationale. Il plaide pour améliorer les canaux de distribution et ouvrir plus de salles de cinéma. En effet, il n'existe que 1700 salles sur le continent, contre 44 000 aux États-Unis et 75 500 en Chine. Alors, pour encourager l'industrie cinématographique locale, Idriss Elba a investi dans deux projets de création de studios, l'un au Ghana et l'autre à Zanzibar, en Tanzanie.
Un autre festival en France, Vision d'Afrique, qui débute mercredi prochain à Marennes-Oléron, dans l'ouest du pays.
Pour sa 15e édition, ce festival reçoit des invités prestigieux comme le musicien sénégalais Oasis Diop, qui assistera notamment à l'hommage rendu à son frère, Djibril Diop Mambéty, auteur d'un classique du cinéma mondial, c'est Touki Bouki. Il y aura aussi la réalisatrice marocaine Laila Kilani ou encore la documentariste et autrice camerounaise Oswald Levat. Au programme, des projections de films, bien sûr, mais aussi des débats animés notamment par Catherine Ruel, grande voix de RFI, qui anima pendant des années Cinéma d'aujourd'hui, Cinéma sans frontières.
De l'autre côté de l'Atlantique, on retrouve le FIFAC, le Festival international du film d'Amazonie Caraïbe à Saint-Laurent-du-Maroni.
Et figurez-vous que Jessica Généus, donc la réalisatrice haïtienne que nous recevions la semaine dernière, est la présidente du jury de cette 6e édition de films documentaires venus du Pérou, de Colombie ou du Suriname.
C'est vraiment Saint-Laurent, c'est mon lieu de naissance, j'ai envie de dire, quelque part, oui. Et donc, d'y aller, de faire partie d'un jury, puis de pouvoir... En plus, le jour se lèvera, justement, le documentaire a été présenté à la première édition du festival et avait eu le grand prix du festival.
Voilà, le FIFAC qui se tient à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à encore ce samedi.
Le cinéma français a rendu un dernier hommage à Michel Blanc.
Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, tous les membres de la troupe du Splendide ont salué leur camarade inoubliable Jean-Claude Duss dans les films Les Bronzés.
Bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine, une chieuse, enfin une histoire. Bon.
Quel est votre nom ?
Jean-Claude, et vous ? C'est Duss, avec un D comme Duss.
Mais Michel Blanc, c'était bien plus qu'un comique tourmenté. Il avait obtenu un prix d'interprétation à Cannes pour son rôle de travesti amoureux de Gérard Depardieu dans Tenue de soirée, film de Bertrand Blier. Et plus récemment, Michel Blanc avait composé un impressionnant directeur de cabinet dans L'exercice de l'État de Pierre Scheuler.
On imagine que la prochaine cérémonie des Césars lui rendra hommage au même titre que Julia Roberts et Costa Gavras.
Oui, ces deux personnalités qui recevront un César d'honneur le 28 février prochain. Julia Roberts, donc l'actrice américaine de 56 ans, est l'un des visages les plus célèbres du cinéma américain. Et puis le cinéaste franco-grec Costa Gavras, connu pour ses thrillers politiques, sera aussi célébré pour son immense carrière.
Eh bien, c'est ainsi que se terminent tous les cinémas du monde cette semaine. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Apolline Verlon.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité Raphaël Grisé. On partira dans la boucle du fleuve Sénégal avec son documentaire Les Voies croisées. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.